إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة وعليكم بلزوم تقوى الله فإن بالتقوى فخاركم وسعادتكم في الدنيا والآخرة فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوتي في الله ما زلنا مع قراءة هذا الكتاب العظيم ألا وهو شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ووصلنا بحمد الله عز وجل إلى باب تبرؤ أهل السنة والجماعة مما يقوله المبتدعة في حق الصحابة وأهل البيت تفضل أخنا نعيم
ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم
ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم
إن صدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون وأن المدة من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب ممن بعدهم ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى.
أحسنت، بارك الله فيك أخي الكريم. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la traduction sur lui, Inch'Allah ? Akhi ? Donc, il dit, Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, dans ce nouveau chapitre, intitulé « La désapprobation des gens de la Sunna et du groupe » vis-à-vis de ce que disent les innovateurs au sujet des compagnons et des gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il désavoue la voix des rafidah, al-rawafid, qui haïssent les compagnons et les insultent, ainsi que la voix des nawasib, qui font du tort à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam par le propos ou l'acte, et ils s'abstiennent, yani Ahl Sunnah, ils s'abstiennent de parler sur les querelles qui ont eu lieu entre eux et disent que ces narrations rapportées qui évoquent leurs défauts, certaines sont des mensonges, d'autres ont subi des ajouts ou des retraits ou des détournements de sens, yani des déformations. Quant à ce qui en est véridique, ils en sont excusés. Soit ils ont fait un effort de réflexion et sont tombés juste, soit ils ont fait un effort de réflexion et se sont trompés. Néanmoins, ils ne croient pas que tout compagnon, yani Ahl Sunna, ils ne croient pas que tout compagnon soit prémuni des péchés majeurs et mineurs, puisqu'en effet, dans l'ensemble, ils peuvent tomber dans le péché. Cependant, ils ont des antécédents et des mérites, tels que cela appelle le pardon pour ce qui pourrait émaner d'eux, si toutefois cela émane vraiment. C'est à ce point vrai que des péchés leur sont pardonnés, alors qu'ils ne le seraient pas à ceux qui viendraient après eux, parce qu'ils possèdent des bonnes œuvres absolutoires que ne possèdent pas ceux qui viennent après eux. Il est établi par la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il constitue la meilleure des générations, et que le moud, c'est-à-dire la capacité des deux pommes de la main réunies de l'un d'entre eux quand il le donne en aumône, est meilleure que la montagne Uhud en or donnée par quelqu'un qui viendrait après eux. Si un péché avait émané de l'un d'entre eux, il s'en serait repenti ou aurait accompli de bonnes actions qui l'effaceraient, ou serait pardonné grâce à ses œuvres antérieures ou grâce à l'intercession de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui dont il mérite le plus son intercession, ou bien il est alors touché en ce monde par une épreuve expiatoire. Si ceci est le cas des péchés avérés, qu'en est-il des actes où ils ont fait un effort de réflexion pour lequel ils reçoivent deux récompenses s'ils tombent juste, et une seule récompense s'ils commettent une erreur? Or, l'erreur est pardonnée. De plus, la proportion d'actes critiquables qui sont le fait de certains d'entre eux est faible et insignifiante, estompée au regard des mérites et vertus de ces hommes-là, tels que la foi en Allah et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam, le combat pour sa cause, l'émigration, l'hijra, l'assistance, la science profitable et les œuvres pieuses. Qui examine avec science et clairvoyance la vie de ces hommes et les qualités qu'Allah leur a données, comprend de façon certaine qu'ils sont les meilleures créatures après les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'y a pas et jamais il n'y aura de gens comme eux, qu'ils sont l'élite des générations de cette nation qui est la meilleure nation et la plus aimée auprès d'Allah jalla wa ala. Babun azim, masha'Allah. Aqul shaykh الفوزان بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا أولا موقف أهل سنة والجماعة من الصحابة وأهل البيت، وأنه موقف الاعتدال والوسط بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء، يتولون جميع المؤمنين لا سيما السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ويتولون أهل البيت كما ذكرنا في درسنا الماضي، ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم، ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم. Donc il dit, Cheikhoun al-Fawzan, Fidallah Ta'ala, que l'auteur, rahimahullah, ici il a exposé donc plusieurs choses. La première, la position des gens de la Sunna et du groupe sur la vérité vis-à-vis des compagnons et vis-à-vis de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle Ahlul Bayt. Hein? Qui nous rappelle, bi'idhnillah, qui sont Ahlul Bayt, précisément. Yalla, ya khouan. Ahlul Bayt, Mukhtar.
Ses épouses, les premières.
Naam. Déjà, azwajuhum, les épouses de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Qui encore?
Ses descendants.
Hein? Ses descendants, ses enfants. Dhurriyatou. Tous les enfants de Nabi sallallahu alayhi wa sallam font partie de Ahlul Bayt. Naam, Banu Hashim, les descendants de Hashim. Encore? Naam, Banu al-Muttalib, les descendants de Al-Muttalib. C'est tout? Naam, wa mawalihim, et les esclaves affranchis. Les esclaves affranchis de tous ces gens-là, eh bien, ils sont aussi inclus dans l'appellation Ahlul Bayt. Taïm? Donc il exprime et manifeste ici la position des gens de la Sunna concernant tous ces gens-là. Et c'est une position, mes frères, de juste milieu. C'est une position qui est une position de juste milieu, dans laquelle il n'y a ni exagération, ni ifrat, et ni laxisme ou négligence, ni tafrit. D'accord ? Ni exagération, ni jafa. C'est quoi le jafa, ikhwa? Abdel Wahab. Le jafa. T'arif le. Hein? Naam, lakin fi hadha al-mawdu', dans ce sujet, le jafa, tarku. Tarku madha? Vous vous rappelez pas, les frères? Naam, ahsan, tarku al-birr wa sila. Qui est-ce qui a répondu? C'est qui? Il a dit la semaine dernière, on l'a dit, la parole de Cheikh Al-Fawzan, il dit Al-Jafa huwa tarku al-birri was-silah, le fait de délaisser la bienfaisance envers la personne et le fait de couper les liens avec la personne. Hada yusamma jafa'an. D'accord? Alors que les gens de la Sunna, ils les aiment. Bien sûr que les gens de la Sunna aiment tous les croyants. Ce n'est pas que les Sahaba, ils aiment tous les croyants de façon générale. Taïb, mais en particulier les Sahaba. As-sabiqoun al-awwaloun, les premiers qui ont embrassé l'islam, donc qui ont ce mérite-là de l'antécédent. Hein? Le fait qu'ils aient précédé tout le monde dans l'islam, parmi al-muhajirin, ceux qui ont fait al-hijra à al-Médina, ainsi que al-ansar, c'est-à-dire ceux qui les ont accueillis à al-Médina. Et bien sûr, tous ceux qui les ont suivis avec excellence, voyez, et ils aiment aussi ahl al-bayt. Donc ça, on l'a vu, alhamdulillah, dans les durous précédents, et ils reconnaissent donc ahl sunnah, la valeur de tous les compagnons, leurs mérites ainsi que leurs vertus. Voyez, et ils font tout pour préserver les droits, al-huquq, les droits de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah jalla wa ala, c'est Allah qui a légiféré ça. D'accord ? C'est Allah Jalla wa Ala qui nous ordonne de les aimer et de les respecter. طيب. ثم يقول ويتبرؤون من طريقة الروافض. يتبرؤون أي أهل سنة من طريقة الروافض. من هم الروافض؟ يقول هم الذين يسبون الصحابة ويطعنون فيهم ويغلون في حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل البيت ومن طريقة النواصب كذلك. من هم النواصب؟ النواصب هم الذين ينصبون العداوة لأهل البيت ويكفرونهم ويطعنون فيهم. وقد سبق بيان مذهب أهل سنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم أهل البيت، ولكن الغرض من ذكره هنا مقارنته بالمذاهب المنحرفة والمخالفة له. بيلج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى les gens de la sunna, ils condamnent et ils se désavouent de deux voies égarées. La première, celle des rawafid ou rafida. C'est-à-dire, qui sont rawafid? C'est quoi cette, la voie de cette secte et de ce groupe? C'est ceux qui insultent les compagnons. Radiallahu anhum. C'est ceux qui critiquent et rabaissent les compagnons et qui ont fait preuve d'exagération concernant le droit de Ali ibn Abi Talib, le quatrième calife de l'islam, radiallahu anhu. Ils ont exagéré par rapport à lui et par rapport à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si en vérité ils dénigrent aussi même les femmes du prophète, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment Aïcha radiallahu anha ou Hafsa. Taïeb, en vérité ils n'ont d'amour que pour la famille de Ali et les descendants de Ali radiallahu anhum. Et la voie que condamnent également les gens de la sunna, c'est une voie qui est totalement ou diamétralement opposée à celle des rawafid. C'est laquelle cette voie? C'est celle des nawasib. Donc on a deux extrêmes ici qui sont totalement opposés. Rafida et on a nawasib. Ce qui est nawasib, c'est ceux qui ont montrer de l'hostilité, qui sont hostiles et haineux envers la famille du prophète. Envers la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui les rendent mécréants. Et qui les insultent. Donc on a vu, en vérité, déjà la position des gens de la sunna concernant les compagnons, concernant la famille, hein, de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, pourquoi l'auteur rahimahullah ta'ala il évoque encore cette position là eh bien c'est pour la mettre en comparaison et face justement à toutes ces doctrines et toutes ces voies égarées qui sont celles des Rafida ou des Nawasib. D'accord. Et on voit que ils sont chacun à un extrême. Nawasib à un extrême ou Rafida à un autre extrême. Et qu'au milieu dans tout ça, au juste milieu, on a Ahl Sunnah. Taïeb. Al-Amr Thani, bayyana Shaykh rahimahullah ta'ala, mawqif Ahl Sunnah wal Jama'a, min al-ikhtilaf alladhi waqa'a bayna as-sahaba, fi waqt al-fitna wal-hurub التي حصلت بينهم وموقفهم مما ينسب إلى الصحابة من مساوئ ومثالب اتخذها أعداء الله سببا للوقيعة فيهم والنيل منهم كما حصل من بعض المتأخرين والعصريين الذين جعلوا أنفسهم حكما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوبوا أو خطأوا بلا دليل بل باتباع الهوى وتقليد المغرضين الذين يحاولون الدس على المسلمين بتشكيكهم بتاريخهم المجيد وسلفهم الصالح الذين هم خير القرون لينفذوا من ذلك إلى الطعن في الإسلام وتفريق كلمة المسلمين. Deuxième chose ici, il dit que Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, nous sensibilise sur la position des Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah concernant la divergence ou les différends qu'il y a eu entre les compagnons durant la période de Al-Fitna. D'accord ? Al-Fitna, le désaccord entre As-Sahaba. Durant la période des combats et des guerres qui se sont produites entre Sahaba Tayyib et leur position Tayyib par rapport à ce qui a été dit et ce qui a été affilié aux compagnons concernant certains défauts, certaines erreurs qui ont été affiliées aux Sahaba radiyallahu anhum. Sachant que ces choses-là qui ont été rapportées des Sahaba, soi-disant les erreurs qu'ils ont commises ou les défauts qu'ils avaient, eh bien ces choses-là sont utilisées aujourd'hui et avant aussi par les ennemis de l'islam. Celui qui veut attaquer l'islam, il va attaquer qui en premier? Il va attaquer As-Sahaba. Parce que qui est-ce qui nous a amené la religion? As-Sahaba. Qui nous ont rapporté les hadiths? As-Sahaba. Donc s'ils arrivent à dénigrer les compagnons, ils pourront dénigrer l'islam. Ça y est? Donc ces gens-là, les ennemis d'Allah Jalla wa'ala, ils vont utiliser ces choses, les désaccords, les divergences qu'il y a eu entre les sahaba, les luttes, les combats, afin de déjà les insulter, les rabaisser. Hein? Comme cela est visible notamment aujourd'hui chez certains parmi les contemporains, hein? Qui se disent la plupart théologiens de l'islam, taïb, qui passent sur France 2 ou là, le dimanche matin, hein? Et qui vont dénigrer Sahaba, qui vont dénigrer Al-Bukhari, Muslim. Donc c'est pas que les Sahaba, c'est Ahl Sunnah en général. Et ils vont se mettre juges, ils vont se faire eux-mêmes juges entre les compagnons. Ils vont commencer à critiquer, hein, un parti et pas l'autre, et dire que ce parti il a raison, l'autre il a tort. Il va se faire juge entre les deux. Taïeb. Et cela sans aucune preuve. Mais seulement basé sur leur passion, hein, et le fait d'essayer de répandre leur égarement au sein des musulmans. En leur faisant douter sur l'histoire des musulmans. Car c'est notre histoire. L'histoire des compagnons, c'est l'histoire de l'islam. C'est l'histoire des musulmans. Donc ils vont leur mettre des doutes dans le cœur sur l'histoire, hein, de leurs prédécesseurs pieux qui font en vérité et qui sont la meilleure des générations. La meilleure des générations, sans aucun doute. Taïeb. Et ceci afin, comme on a dit tout à l'heure, afin d'arriver à un objectif qui est de
critiquer l'islam et de dénigrer le message de l'islam.
Hein? De dénigrer certains ahadiths jusqu'à ce qu'ils prennent les hadiths qu'ils ont envie de prendre et qu'ils délaissent les hadiths qu'ils ont envie de délaisser. Taïeb, donc le critère de ces gens-là, ce n'est pas l'authenticité du hadith. Qu'est-ce qui sont les transmetteurs du hadith? Leur critère, c'est quoi? Est-ce que le hadith, il est conforme à ma raison? Est-ce qu'il est conforme à ma passion? Est-ce qu'il est conforme à mon désir? S'il est conforme, alhamdoulilah, il est sahih. S'il n'est pas conforme, là, le compagnon, yani, il est comme si, il a fait ceci, il a fait cela. Voyez, Allah al-musta'an. Donc cela n'est fait que dans le but de critiquer l'islam et de diviser l'union des musulmans. ثم يقول وما أحسن ما ذكره الشيخ هنا من تجلية الحق وإيضاح الحقيقة فقد ذكر أن موقف أهل السنة مما نسب إلى الصحابة وما شجر بينهم أي تنازعوا فيه فيتلخص في أمرين الأمر الأول أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة أنهم أي أهل السنة يمسكون عما شجر بين الصحابة أي يكفون عن البحث فيه ولا يخوضون فيه لما في الخوض في ذلك من توليد الإحن والحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك من أعظم الذنوب فطريق السلامة هو السكوت السكوت عن ذلك وعدم التحدث به. Puis il dit ce qu'a cité le cheikh de l'islam rahimahullah ta'ala ici est excellent. Lorsqu'il a exposé clairement la vérité et la réalité, il a mentionné la position d'Ahl Sunna concernant ce qui a été prêté ou affilié aux compagnons et concernant les différends, les conflits qu'il y a eu entre les compagnons. Et il a résumé cela en deux choses. La première chose, il dit que Ahl Sunna wal Jama'a يمسكون عما شجر بينهم أو بين الصحابة. Ils s'abstiennent de se mêler de ce qu'il s'est passé entre les sahaba. Ils ne rentrent pas dedans. Ils ne rentrent pas dedans. Ils ne s'en mêlent pas. Ils s'abstiennent au contraire même de faire des recherches ou d'étudier ou de parler de ça. Ils ne parlent même pas de ça. Il va rester en surface. Car le fait de rentrer dans ces sujets-là, dans les différends qu'il y a eu entre les compagnons, radiyallahu anhum, cela ne fera naître que la haine, ou la rancune, ou la rancœur à l'encontre des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. La rancœur, c'est un peu comme la haine, le fait de détester quelqu'un. Hein? Non. Et cela fait partie des péchés les plus graves. Des péchés les plus graves. Et donc, il dit le shaykh, c'est la méthode de as-salama, la méthode de la préservation. Ainsi, tu vas te préserver. Et c'est quoi cette méthode-là? Eh bien, c'est se taire, as-sukut. Garder le silence. Hein, concernant cette affaire, concernant ce qu'il y a eu entre les compagnons, et ne pas en parler. Et ne pas en parler. الأمر الثاني الاعتذار عن الآثار المروية في مساويهم لأن في ذلك دفاعا عنهم وردا لكيد أعدائهم وقد ذكر أن جملة الاعتذارات تتلخص فيما يلي أولا هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب منها ما هو كذب فقد افتراه أعداؤهم ليشوهوا سمعتهم كما تفعله الرافضة قبحهم الله والكذب لا يلتفت إليه. Donc deuxième chose, le fait que Ahl Sunnah wal Jama'a vont yani, trouver des excuses concernant les récits ou les choses qui ont été rapportées des compagnons concernant leurs défauts ou leurs erreurs. Car il y a en cela une défense. Le fait de les défendre, de défendre leur réputation et leur honneur. Hein? Et afin également de rejeter et de repousser les attaques des ennemis de l'islam et des ennemis des compagnons. Donc parmi les réactions que l'on doit avoir, il y a premièrement, il dit le cheikh, le fait de croire que certaines choses rapportées des compagnons ne sont que des mensonges. Déjà, premièrement, certaines choses rapportées des compagnons ne sont que des mensonges. Et des choses qui ont été inventées et forgées par les ennemis de l'islam et les ennemis des compagnons, radiallahu anhum, afin de salir leur image et afin de les discréditer. Voyez, si tu arrives à discréditer les compagnons, bien, tu es arrivé à discréditer l'islam. Comme le font et l'ont fait Rafida. Taïeb, qu'Allah il les éloigne du bien, il dit le Cheikh. Et il dit donc le mensonge, la yultafatu ilay. Le mensonge, bien sûr, on n'a pas à y faire attention. Thaniyan, هذه المساوئ المروية منها ما قد زيد في ومنها ما نقص ومنها ما غير عن وجهه فدخله الكذب فهو محرف لا يعتمد عليه لأن فضل الصحابة معلوم وعدالتهم متيقنة فلا يترك المعلوم المتيقن لأمر محرف مشكوك فيه. Deuxièmement, ces défauts et ces erreurs qui nous ont été rapportées des compagnons, radiallahu anhum, parmi elles, il y a certaines qui ont été amplifiées. Donc les gens, ils ont rajouté des choses en plus, d'accord ? Ils ont exagéré dans les erreurs qu'ils ont faites. Certaines ont été diminuées volontairement, hein, pour privilégier un parti plus qu'un autre. Certaines ont été altérées, échangées carrément. Ils ont trafiqué, yani, hein, les récits qui ont été rapportés des compagnons. Donc ainsi le mensonge. Donc c'est une forme de mensonge aussi, hein, le fait de rajouter, diminuer, changer, c'est un mensonge également. C'est une transformation de la réalité. Donc toute chose qui a été altérée, on ne peut pas s'appuyer dessus. Hein? On ne peut pas s'appuyer dessus. Car le mérite des compagnons, il est connu. Ça, c'est une chose qui est connue dans les textes authentiques de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et avant eux, les paroles d'Allah, les versets d'Allah jalla wa ala, sur le mérite de tous les compagnons, radiallahu anhum. Donc tu ne peux pas délaisser, abandonner quelque chose qui a été rapporté avec certitude, le Coran, ou sunnat sahiha, les hadiths authentiques. Après, tu vas chercher les choses qui ont été modifiées ou rajoutées ou diminuées. Là. Thalithan, والصحيح منه أي من هذه الآثار المروية هم فيه معذورون وحتى الصحيح المروي عنهم قال الشيخ هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. ما معنى هذا؟ قال فهو من موارد الاجتهاد التي إن أصاب المجتهد فيها فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. Troisième chose. Et même si la chose qui a été rapportée des compagnons, radiallahu anhum, même si elle a été authentifiée, est vraie, taïeb, eh bien, même là, ils sont excusés. Même là, ils sont excusés. Car soit ils ont fait un effort de réflexion en se basant sur le Coran et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont eu juste, ou soit ils ont fait un effort de réflexion en se basant sur le Coran et la Sunna et ils se sont trompés. Taïeb, donc là c'est du domaine de l'ijtihad, de l'effort de réflexion que fait celui qui est apte à faire un effort de réflexion. D'accord ? Al-mujtahid. Al-mujtahid, c'est-à-dire les savants, ceux qui sont aptes à faire cet effort-là de réflexion. Et vous savez que les savants, ainsi que les juges qui vont juger, qui vont trancher dans les différents parmi les musulmans, avec science, eh bien cela est dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, si il a eu juste, il a deux récompenses. Et si il s'est trompé, il a une seule récompense. Donc les sahaba, il n'y a pas de doute qu'ils sont les premiers à être concernés par ce hadith. Si eux ne sont pas concernés, qui est concerné par ce hadith? Taïeb. Donc les sahaba, même s'ils ont fait des erreurs, ils sont excusés et ils ont une récompense auprès d'Allah Jalla wa Ala. Et s'ils ont eu juste, alhamdoulilah, ils ont deux récompenses. Rabi'an, as-sahabatu bashar. Fayajuzu ala afradihim ma yajuzu ala al-bashar min al-khata. Fa'ahlu sunnah لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة لكن ما يقع منهم من ذلك فله مكفرات عديدة منها سنذكرها إن شاء الله. Quatrièmement, الصحابة restent des êtres humains, dans le sens où ce ne sont pas des prophètes ni des messagers, alayhi salatu wassalam. D'accord ? Donc ils ne sont pas infaillibles comme le sont les prophètes et les messagers. Donc forcément, de manière individuelle, ils peuvent commettre des erreurs. Donc les gens de la sunna ont la croyance et la conviction que as-sahaba, aucun d'entre eux n'est infaillible. Et qu'aucun d'entre eux est préservé de commettre des péchés. Que ce soit un péché majeur ou un péché mineur. Car encore une fois, ils restent des êtres humains. Donc ils peuvent commettre des péchés comme ceux qui ne sont pas des compagnons. Taïeb, mais la différence entre eux et nous, c'est quoi les frères? C'est que eux, ils ont des choses qui vont expier les péchés qu'ils peuvent commettre. Ils ont fait des choses et des œuvres tellement nombreuses et tellement sincères pour Allah Jalla wa Ala et tellement bénéfiques pour la Umma que cela va faire que même s'ils font des péchés, ces péchés-là seront absous et seront pardonnés par Allah Jalla wa Ala. Minha أن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر فما يقع من أحدهم يغتفر بجانب ما له من الحسنات العظيمة كما في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه لا أو لما وقع بينهما وقع في غزوة الفتح غفر له بشهوده وقعة بدر الله أكبر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات Donc parmi les œuvres des Sahaba qui font que même s'ils font des péchés, leurs péchés sont absous et pardonnés et effacés. Il dit déjà As-sawabiq. As-sawabiq, c'est-à-dire le fait qu'ils nous ont précédés dans l'islam. D'ailleurs, et vu qu'ils nous ont précédés dans l'islam, ça veut dire que c'est eux qui l'ont propagé et qui l'ont transmis jusqu'à nos jours. D'ailleurs, c'est par leur cause. Et ainsi que par rapport à leurs mérites et leurs vertus qui font que ce qu'ils ont fait comme péché, eh bien, il est pardonné. Il est pardonné. Insadar. Et encore une fois, si cela est avéré, si les péchés ou les erreurs qu'ils auraient commis sont avérés, et même s'ils sont avérés, alhamdulillah, ils sont pardonnés par Allah Jalla wa Ala. D'ailleurs, donc ils sont pardonnés, pourquoi ? Par rapport à les nombreuses hasanat, al-azima, les bonnes actions énormes qu'ils ont fait. Donc même si ils ont pu commettre des péchés, et même des fois des péchés graves, hein, comme celui de Hatib ibn Abi Balta'a, radiyallahu anhu, vous connaissez sûrement son histoire. Qu'est-ce qu'il a fait, Hatib, quand les musulmans ont décidé de rentrer à Mecca et de prendre Mecca et de reconquérir Mecca? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une lettre. Il a écrit une lettre et il a envoyé en cachette. Il a donné à une femme qui avait pour mission de la remettre aux Mécois, afin de leur dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va venir avec ses compagnons et il va vouloir reprendre la Mecque. C'est un acte de trahison. Trahison grave. D'ailleurs, et malgré ça, Allah Jalla wa Ala, il lui a pardonné. Il lui a pardonné, notamment pour quelle raison? Parce qu'il fait partie des gens qui ont participé à la bataille de Badr. Ah. La bataille de Badr. Subhanallah. Pas n'importe quelle bataille. C'est pour ça qu'il dit Hatta inam yughfaru lahum. Donc jusqu'à ce que Allah Jalla wa Ala leur pardonne les péchés qu'ils auraient pu faire, des péchés que Allah n'aurait pas pardonné à d'autres que les compagnons. Parce que les compagnons ont des hasanat qui effacent les péchés. Ont des hasanat qui effacent les péchés. Des hasanat que n'ont pas les autres, qui ne sont pas des compagnons. Hein? Si aujourd'hui quelqu'un commet le même acte que Hatib, fait un acte de trahison, il trahit les musulmans en temps de guerre, hein? Est-ce qu'on va dire que lui il est dans le même cas que Hatib et que ça y est Allah Jalla wa Ala va lui pardonner comme il a pardonné à Hatib? Là, lui il n'a ni participé à Badr ni à Uhud ni il n'y a rien du tout, aucune raison. Rien à voir. Donc ces compagnons, mes frères, ils ont des mérites sur nous qui font que même s'ils ont commis des péchés, des fois graves, comme on l'a vu ici, eh bien cela leur est pardonné, subhanallah. Hein? Qu'est-ce qu'il dit Allah Jalla wa Ala au sujet des Ahl Badr. Ya'malu ma shi'tum, faqad ghafartu lakum. Faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Car Allah Jalla wa Ala savait que ces gens-là n'allaient pas finir leur vie sur le kufr ou sur le shirk. Et qu'Allah Jalla wa Ala allait les guider toute leur vie jusqu'à la mort sur at-tawhid. ثم يقول ب انهم تضاعف لهم الحسنات اكثر من غيرهم ولا يساويهم احد في الفضل قال وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم خير القرون خير القرون وان المد من احدهم اذا تصدق به كان افضل من جبل احد ذهبا ممن بعدهم اخرجه الشيخان وغيرهما احاديث عن ابي هريره رضي الله عنه وابن مسعود وعمران بن حسين ان رسول الله عليه الصلاه والسلام قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم الحديث فالقرون جمع قرن والقرن هو أهل زمان واحد متقارب أو متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة ويطلق القرن على المدة من الزمان كذلك Deuxièmement, les bonnes actions qu'ils ont fait, ces compagnons-là, radiallahu anhum, elles sont multipliées. Leur récompense, elle est multipliée pour eux plus que pour ceux qui ne sont pas des compagnons. Et personne ne peut égaler leur mérite. Personne. Même si toi, tu vas faire la même chose, tu n'auras pas la même récompense. Hein? Tu as un compagnon qui va faire une bonne action, une autre personne qui n'est pas un compagnon va faire la même bonne action, mais la récompense ne sera pas la même. La récompense, what? Subhanallah. Ajib. Déjà.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Il dit, Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, Il a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que les compagnons sont la meilleure génération. Et que un mud, c'est-à-dire l'équivalent du contenant de deux mains, hein, deux mains jointes, de l'un d'entre eux, s'il fait une aumône, elle est meilleure que l'équivalent de la montagne de Uhud en or de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui n'est pas un compagnon. On a vu ce hadith. Si toi tu donnes l'équivalent de la montagne de Uhud en or, sache que tu as moins de mérite que lorsque le sahabi il a donné l'équivalent d'un moud en sadaqa, ou la moitié, ou la moitié. Vous vous rappelez du hadith, subhanallah. Donc ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari ou Muslim et autres que eux. Et on a également le fait que Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la meilleure des générations, c'est ma génération. La meilleure des générations, c'est ma génération. Ensuite ceux qui les suivent. Ensuite ceux qui les suivent. Et ensuite ceux qui les suivent. Donc dans le hadith, on a dans certaines versions, il y a trois générations. Et dans l'autre version, on a quatre générations. On a celle des compagnons, puis celle des tabi'in, puis celle des tabi'i tabi'in. D'accord? Donc, les compagnons, tabi'in, et ceux qui ont suivi, tabi'in. Naam. Donc, le terme al-qurun en arabe, c'est le pluriel de qarn. Donc, un qarn, ça peut désigner deux choses. Premièrement, un qarn, ça peut désigner les gens d'une même époque. C'est pour ça qu'on traduit par génération. Une génération, c'est ça, une génération, c'est un groupe de gens qui ont vécu à la même époque ou proches les uns des autres. D'accord ? Et qui sont unis et reliés sur la même époque ou le même sujet. On les appelle yani haoula qurun qarn. Mais un qarn, ça peut désigner aussi une période dans le temps. Une période dans le temps. D'accord ? Quand on dit مثلاً القرن الرابع, c'est-à-dire c'est quoi ? Hein ? Le siècle combien ? الرابع ? Le quatrième siècle, c'est-à-dire de l'an 300 à 400. Hein? Ou 301, c'est ça? 301 à 400. Allahu a'lam. Quand on dit le quatrième siècle, ça veut dire le siècle qui a précédé l'an 400. D'accord? Quand on dit le dixième siècle, c'est le siècle qui a précédé l'an 1000. Ou hakada. D'accord? Jim. كثرة مكفرات الذنوب لديهم فإنهم يتوفر لهم من المكفرات ما لم يتوفر لغيرهم فإذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أي الأعمال الصالحة التي فعلها قبله أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه أي امتحن وأصيب بمصيبة محي عنه ذلك الذنب بسببها كما في الصحيح أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه فالصحابة أولى الناس بذلك. Puis il dit Jim, le nombre très important des des choses qui font que, qui vont expier les péchés des sahaba. On les appelle al-mukaffirat. Al-mukaffirat sont les choses qui vont être la cause de l'expiation des péchés. Al-mukaffirat. Et bien sûr, les sahaba possèdent un nombre grandiose de mukaffirat, d'actes et de choses qui vont expier leurs péchés plus que les autres. C'est pour ça qu'il dit l'auteur rahimahullah ta'ala, s'il a été avéré qu'un péché a été commis de l'un d'entre eux, tayyib, eh bien sache que soit il s'est repenti sincèrement à Allah jalla wa ala, ou soit il a fait des bonnes actions qui vont effacer son péché ou leur péché, ou soit ils vont être pardonnés par Allah jalla wa ala grâce au fait qu'ils ont été les antécédents et les prédécesseurs dans l'islam. Et soit également par l'intercession même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en leur faveur, car qui sont les plus prioritaires de l'intercession du prophète Mohammed si ce n'est les compagnons radiyallahu anhum? Ou alors ils ont été éprouvés par Allah durant leur vie, et vous savez que les compagnons ont été éprouvés comme le prophète a été éprouvé sallallahu alayhi wa sallam. Et ces épreuves là dont ils ont vécu et dont ils ont souffert sont aussi des causes d'expiation de leurs péchés. Quand les sahaba ont été éprouvés par Allah jalla wa ala, ils ont été touchés par la famine, la soif, la douleur, la torture, l'exil, l'abandon de leurs biens, leurs maisons, leurs familles. Donc tout ça font que s'ils ont commis des péchés, eh bien ils sont pardonnés. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam une chose qui concerne tous les musulmans, pas que les sahaba. On est concerné aussi. Donc c'est un hadith qui nous donne de la joie et du baume au cœur. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le croyant n'est pas touché par une maladie, wasab. Les ulama disent le wasab, c'est la maladie qui va toucher le corps de la personne. Wala nasab, une fatigue. Wala gham, une inquiétude. Wala ham, une angoisse. Wala hazan, une tristesse. Ma le farq bayna hadhihi al kalimat? C'est quoi la différence, les frères, entre le gham, le ham ou le hazan? Qui connaît la faïda? Aywa, na'am. Yani? Aywa. Nisfa faïda, la moitié de faïda. Na'am, ça concerne le temps, exactement. Les ulama, ils disent, retenez bien les frères, et ça nous montre la richesse de la langue arabe. J'ai fait exprès de choisir des mots différents en français. J'ai dit angoisse, tristesse. Mais en vérité, en français, tout ça, c'est pareil à peu près. Alors qu'en arabe, al-gham, c'est l'angoisse que tu vas ressentir au moment présent par rapport à une chose qui te préoccupe, mais au moment présent, que tu es en train de vivre. Tu es en train de le vivre et tu es préoccupé par ça. Ça, c'est un ram. Al-ham, c'est le fait que tu sois préoccupé par une chose, mais qui n'est pas encore arrivée et qui va se produire. Tu as un rendez-vous important où tu as été convoqué par telle ou telle personne et tu es inquiet, tu es angoissé. Mais c'est une chose qui ne s'est pas encore passée, qui va se passer dans une semaine, dans un mois, dans trois mois. Eh bien, ce sentiment-là, en arabe, on dit ham. Non, ham. Al-gham, c'est une chose qui te touche actuellement. Hada gham. Mais une chose qui va te toucher à l'avenir. Hada ham. Al-hazan, c'est par rapport à une chose du passé. Hada al-hazan. Une chose que tu as vécue dans le passé et auquel tu penses encore et qui te fait mal, qui te rend triste. Le décès d'une personne, Une chose qui t'a rendu triste dans le passé et tu y penses encore et cela te rend triste jusqu'à aujourd'hui. D'accord ? Donc, al-gham, présent, al-ham, le futur, ou al-hazan, le passé. Donc, il dit, il n'y a pas un croyant qui est touché par toutes ces choses. Et vous remarquerez ici que al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué les choses qui te touchent physiquement, c'est-à-dire al-wasab ou al-nasab, la fatigue et la maladie, ça c'est physique, et les choses qui te touchent aussi mentalement, psychologiquement, al-hazan ou al-gham ou al-ham, ça c'est psychologique. Mais même ça, sache que ce sont des causes. Il dit hatta shawka, même une simple épine qui va te piquer, hein, eh bien, sache que par toutes ces causes-là, Allah Jalla wa Ala, il va pardonner à la personne ses péchés. Allahu Akbar. T'imagines? Même le sentiment de tristesse que tu ressens, eh bien, sache que c'est une cause qu'Allah Jalla wa Ala, il te pardonne tes péchés. Et ça, c'est pour tous les croyants. Que dire alors des sahaba? Que dire alors des compagnons? Il dit le shaykh, les compagnons sont plus prioritaires encore que nous par rapport à l'expiation de leurs péchés quand ils ont vécu, hein, toutes les épreuves qu'ils ont vécues parmi les douleurs, les maladies, les fatigues, les peurs, les angoisses, les moments de tristesse, de chagrin, lorsqu'ils devaient combattre contre leur propre famille, lorsqu'ils ont dû délaisser leur propre famille pour Allah Jalla wa'ala et pour rejoindre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naktafi bihadha al-qadr inshallah ta'ala. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.